discussion du soir. Les discussions du soir, Lélie Anvar. Bonsoir Guillaume de Fonclar.
Bonsoir.
Vous avez une formation d'historien et vous avez dirigé de 2006 à 2010 l'historial de la Grande Guerre à Péronne dans la Somme, expérience marquante que vous racontez dans un récit biographique « Dans ma peau » publié aux éditions Stock en 2010. Mais depuis 2004, vous souffrez en fait d'une maladie auto-immune, un syndrome d'Ehlers-Danlos, maladie qui se traduit par des douleurs chroniques et invalidantes et une très grande fatigabilité. Et pour des raisons de santé donc, vous avez dû quitter cet historial fin 2010 et vous vous consacrez désormais entièrement à l'écriture. Histoire de la Grande Guerre, écriture, cela vous a naturellement mené sur les traces de Joey Bousquet, dont vous nous parlez dans Joey, récit de communion avec cet homme et cet écrivain extraordinaire, je pèse mes mots, auquel d'une certaine façon vous vous identifiez et en tout cas qui vous inspire très intimement puisque au fond, livre après livre, vous témoignez de la manière dont vous avez traversé et traversé encore les épreuves et les douleurs qui auraient dû vous terrasser, comme Joey Bousquet aurait dû être terrassé par ce qu'il a vécu, mais qui au lieu de cela vous ont grandi, transformé, qui vous ont permis de devenir vous-même en vous dépassant vous-même. Et c'est pourquoi j'ai un grand plaisir à vous recevoir pour cet entretien, parce que je crois que à la fois votre écriture et votre vie peuvent servir d'exemple pour toute personne qui traverse des souffrances et des douleurs, c'est-à-dire pour tout le monde, puisque personne ne peut dire qu'il traverse ce monde sans souffrance, sans douleur. Et même si les souffrances et les douleurs ne peuvent pas se comparer, qu'il y en a des grandes et des petites, mais au fond, nous ne pouvons pas savoir quelles souffrances sont les plus grandes, Guillaume de Fonclar. Est-ce que vous diriez cela, que tout votre travail consiste à dépasser l'épreuve pour devenir encore plus vous-même ?
En quelque sorte, oui et non. Mon travail est un travail obligé. C'est-à-dire que le jour où on a découvert cette maladie et le jour où j'ai découvert que cette maladie allait me faire quitter le monde du travail, j'ai eu deux choix, soit le choix d'en finir, puisqu'à la même époque, j'ai un de mes très très proches amis qui s'est suicidé, et c'est un suicide qui m'a beaucoup marqué, beaucoup interrogé, et je me suis posé moi-même la question du suicide en me disant, après tout, est-ce que ta vie s'arrête là, ta vie professionnelle, j'entends, et ma vie tout court. Et ce travail, donc, cette obligation de vivre, je l'ai traduit par l'écriture, et elle se traduit par l'écriture un peu à l'image de Bousquet, quoi, qui décide, lui, parce qu'un jour, une balle allemande le coupe en deux, qu'il est paralysé donc de la moelle épinière, du sternum jusqu'aux orteils, et il décide que c'est sa seconde naissance, en quelque sorte. Moi, j'ai décidé que la maladie n'aurait pas ma peau et que j'allais être plus vivant que ce que je ne l'avais été jusque-là. Et c'est tout le pari de se mettre à écrire que de dire je vis et je vis fortement et fondamentalement, en quelque sorte.
Oui, mais alors justement, cette vie d'avant, déjà, est-ce qu'elle portait en germe ce que vous dites maintenant de l'existence ? Est-ce que a posteriori, vous pouvez dire que ce travail que vous avez fait aussi dans le mémorial, comme par hasard, le mémorial de la Grande Guerre, dont vous avez été confronté à ces histoires de gens qui avaient vécu cette guerre et cette catastrophe, ce déferlement de souffrance inouïe, est-ce que ce travail, d'une certaine façon, vous a préparé aussi à prendre la vie autrement ?
Oh oui, bien sûr, c'est lui qui a tout changé, en fin de compte. Avant d'arriver à l'historial, moi j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans l'ambition, dans la réussite professionnelle au sens d'avoir plus d'argent, d'avoir une plus grosse voiture, une plus grande maison, en oubliant certainement de vivre. Et de me retrouver malade à l'historial, tout d'un coup, ça a été le choc de ma vie. Ça a été ma balle à moi, à l'image de celle qui a frappé Bousquet. Je me suis rendu compte que la vie, ce n'était pas que cela, quoi. Et que si j'ai décidé de vivre, il fallait vraiment vivre. Et pas vivre comme je le faisais jusqu'alors, en courant après les honneurs et en courant après une reconnaissance financière ou une reconnaissance qui n'était pas une vraie reconnaissance. Mmh. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans la vie de tous les jours, la vie à la minute, comme je dis souvent, une minute après l'autre, en essayant de trouver dans chaque minute une raison d'exister, même dans les minutes douloureuses. C'est-à-dire qu'on a tous, comme vous l'avez dit en introduction, on a tous nos souffrances, nos douleurs. Et je ne pense pas qu'on puisse dire d'ailleurs que certaines douleurs sont plus grandes que d'autres. Chacun les ressent, ses douleurs et ses difficultés, et qu'elles soient petites à l'aune de celles que peuvent traverser d'autres, qu'elles paraissent petites, en tout cas, n'en diminuent pas la portée, quoi. Donc pour en finir avec votre question, donc ce passage à l'historial a été déterminant pour moi. Je pense qu'il m'a sauvé la vie, en quelque sorte. Parce que même si je n'avais pas été... Si je n'avais pas été malade et si je n'avais pas travaillé à l'historial, j'aurais continué à vivre stupidement.
Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est-à-dire que quels sont les éléments concrets qui vous ont amené à faire ce travail de changement de regard, finalement?
C'est le fait de côtoyer tous les jours des objets et qui étaient des objets reliques, en quelque sorte, de la Grande Guerre. Un casque avec un trou, un éclat d'obus, des uniformes, des matraques de tranchées, des poignards, des choses très fortes comme ça, qui m'ont interrogé sur mon existence. Et je me suis dit que j'avais beaucoup de chance et que la vie telle que je la vivais, même si elle était difficile, parce qu'il y avait cette maladie qui était là et qui était prégnante, cette vie-là, elle valait 100 fois, 1000 fois la peine d'être vécue, parce que à l'aune de celle qu'ont vécu les soldats de 14, évidemment que je suis un béni des dieux, quoi. J'ai pas à porter de fusil, j'ai pas à porter de poignard, j'ai pas à monter à l'assaut, j'ai pas à me lever tous les matins avec la peur au ventre, enfin ce genre de choses.
Oui, et quand on lit d'ailleurs la correspondance ou les poèmes ou enfin tous les textes qui ont été produits par ces soldats pendant la guerre, on voit quand même ça, c'est-à-dire on voit que eux aussi, pour beaucoup d'entre eux, même si certains ont souhaité en finir, bien sûr, mais enfin beaucoup d'entre eux se raccrochent en fait à la moindre trace de vie. J'ai en mémoire un recueil de Cohan, en fait, de soldats de la guerre, qui a été publié aux éditions Bruno Doucet. C'est vraiment étonnant de voir que la moindre fleur qui pousse, le moindre brin d'herbe, la moindre couleur dans le paysage, soudain raccroche ces personnages qui vivent dans les tranchées à la vie. Est-ce que vous diriez que c'est ça aussi, c'est-à-dire d'un coup de voir de la couleur au milieu du gris uniforme de la souffrance qui permet de revenir, de prendre conscience de la valeur de la vie?
Mais je pense que la vie est toujours la plus forte, en quelque sorte. C'est-à-dire que si tant est qu'on fait le pari de vivre, tout simplement, de se dire « j'accepte la vie telle qu'elle est, avec ses grandeurs et ses douleurs », eh bien, elle me donnera, elle m'apportera de la couleur. Et y compris au fond d'une tranchée en 14, je crois que un coquelicot, un bleuet, qui sont devenus plus tard les emblèmes des anciens combattants, et pas pour rien, un coquelicot, un bleuet, ça devient tout d'un coup un don du ciel et puis quelque chose qui va illuminer votre journée. Mais parce qu'il faut faire le choix de la vie, même en pleine guerre, même en plein désastre. Parce que si vous ne le faites pas, effectivement, ça vous conduira à la mort. Et c'est d'autant plus facile en 14 de mourir qu'il y a la guerre autour de vous, quoi. Moi, je pense sincèrement que... ces soldats de 14, parmi ces soldats de 14, il y en avait un certain nombre d'entre eux qui sont morts, je vais dire une incongruité, mais qui sont morts en aimant la vie, voyez-vous, et qui avaient décidé à un moment que la vie serait la plus forte, et que même si une balle les attendait au coin d'une tranchée, ils continueraient à s'extasier sur un bleuet ou un coquelicot.
Et c'est ce qui vous a aussi touché dans l'œuvre de Joey Bousquet, c'est-à-dire l'idée que finalement, un homme coupé en deux, comme vous le, ouais. comme il se définissait lui-même ouais, et comme vous, le, vous l'évoquez, décide à un moment que cette partie haute de lui, qui peut encore ressentir et vivre, va tirer la totalité de l'être et, lui, et le convaincre que la vie vaut la peine d'être vécue, même si on n'est plus qu'une partie de soi-même sur le plan des perceptions sensorielles. Guillaume de Fonclar.
Je pense qu'il va même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il décide d'accepter pleinement sa partie basse, vous parlez partie haute, mais mm-hmm. qu'il décide donc d'accepter pleinement le fait qu'il a toute une partie de lui-même qui ne contrôle plus et qui a ses humeurs, qui ne contrôle pas, avec tout ce qu'il peut y avoir de quotidien et de sordide dans cette vie-là, quoi. Et que sa partie haute, désormais, va faire avec cette partie basse qui ne lui appartient plus, mais qui fait partie de lui tout de même, et qui va décider que un jour que sa vie recommence, parce qu'il y a un parce que c'est pas simplement la décision de vivre, mais c'est décision de vivre parce qu'il y a la littérature,
voilà,
parce qu'il y a l'écriture et parce qu'il se découvre ce talent qu'il n'appelle pas talent d'ailleurs, puisque lui-même ne se glorifiera jamais du talent, l'immense talent qu'il peut avoir. Mais il y a ce talent, cette possibilité d'écrire, et que cette possibilité d'écrire ben, lui ouvre le monde tout entier. Et à tel point qu'il va même décider de se couper complètement du monde réel, de s'enfermer dans sa chambre, d'en faire tirer les volets, les rideaux, et de décider que il va organiser le monde à partir de cette chambre, et qu'il va faire de cette chambre le centre du monde, de son monde, et un lieu de vie. Voilà, un lieu de vie parce qu'il va y écrire, il va y produire des œuvres qui sont ce qu'elles sont, hein, qui sont pas toutes des œuvres géniales, mais en tout cas qui vont être des choses d'une force très particulière et qui n'appartiennent qu'à lui en tout cas.
Oui, et qui vont quand même être reconnues par les milieux littéraires de cette époque-là comme vraiment ayant à la fois une très grande originalité, ce qui est vrai. Ayant une force de vie, précisément, que peut-être d'autres œuvres de gens plus sains de corps, sinon d'esprit, ne peuvent pas obtenir, d'une certaine façon.
Oui, parce qu'il a cette idée que chaque mot, chaque ligne qu'il va écrire doit être exceptionnel, au sens étymologique, quoi. Il doit être extraordinaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire... doit être puisé au fond de son esprit, au fond de son âme, et doit réinventer le monde. Les lignes de Bousquet, l'œuvre de Bousquet, c'est une œuvre qui veut sans cesse réinventer un nouveau monde, qui veut s'inscrire dans une lignée, qui veut s'inscrire dans la continuité. Il parle souvent de ceux qui viendront après lui, ceux qui sont venus avant lui. Il s'inscrit comme ça dans une sorte de chaîne. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il va écrire, il est bien conscient que c'est un acte fondamental. Et que de sa petite chambre de Carcassonne, puisqu'il y a aussi cet obstacle-là, la distance de Paris, hein, oui, où tout se passe, de sa petite chambre de Carcassonne, il a la possibilité de faire une œuvre, d'écrire quelque chose qui sera plus grand que lui. Et de cette capacité-là, il va faire naître la vie, quoi. La vie n'est possible que parce qu'il a cette capacité-là. Je pense que si Bousquet ne s'était pas découvert ce talent, il aurait mis fin à ses jours, très certainement.
Oui, alors reposons d'ailleurs peut-être le contexte un petit peu de sa biographie, parce que je ne suis pas sûre que tous les auditeurs connaissent... ni l'œuvre, ni cette courbe de vie qui a été celle de Joey Bousquet. D'abord, expliquez-nous comment vous l'avez rencontré, et ensuite, quelle a été le resituer dans son siècle et dans son appartement qui, vous le signalez, a été très ironiquement, se trouvait très ironiquement dans l'avenue de Verdun.
Oui, c'est un garçon de bonne famille, hein. Il est le fils d'un médecin, donc à Carcassonne. C'est un assez mauvais garçon.
Oui, ça c'est très important,
c'est un prédélinquant. Oui, c'est un prédélinquant et puis qui a des pratiques qui sont à la limite de la déviance, quoi. Il se drogue, Il utilise souvent la femme comme un objet sexuel. Il a aussi une proximité avec la mort, il joue avec la mort en permanence par ses pratiques. Et plus tard, donc pendant la guerre, jusqu'à sa blessure, pendant la guerre, il va se mettre en danger en permanence, ce qui va lui valoir une avalanche de médailles et d'honneurs, jusqu'au jour où, de guerre lasse, c'est le cas de le dire, un peu écœuré par cette boucherie tout de même, il va décider un jour qu'il en a assez et qu'au lieu de se coucher, parce qu'il faut se coucher parce que les balles ennemies fusent, ben il va rester debout et prendre cette fameuse balle en espérant finir une bonne fois pour toutes. Et donc, comme nous le disions en préambule, cette balle va changer sa vie puisqu'il va en définitive décider de vivre. Il va passer le reste de sa vie donc enfermé dans sa chambre. Parce qu'il décide un beau jour que la vie n'a pas besoin d'extérieur, en quelque sorte. Enfin, sa vie à lui, c'est l'écriture et que ça suffit à son bonheur. Et donc, il va s'enfermer dans sa chambre, rue du Verdun, à Carcassonne, et il va y rester jusqu'à sa mort, quasiment.
Et par contre, on a dit qu'il était. Donc, cette balle, en atteignant la colonne vertébrale, a fait en sorte que. Il n'avait plus l'usage du bas de son corps, oui. Mais néanmoins, il avait des douleurs. Ça, c'est très important aussi de le signaler, parce que les gens, la plupart du temps, pensent que quand on dit ça, quand on perd l'usage, on perd aussi la douleur. Hélas, dans son cas, il vit dans des souffrances quand même terribles pendant toute sa vie.
Oui, qui vont l'obliger à prendre de la morphine, puis de la cocaïne par la suite. À la fois parce que il fait ses expériences aussi, c'est les expériences de l'époque, de jouer avec la drogue pour développer son sens artistique. Il n'est pas le seul à le faire, bien évidemment, mais pour lui aussi, il y a chez lui aussi la volonté de supprimer ses douleurs qui sont très fortes, effectivement. Qui sont des douleurs de type ce qu'on appelle membre fantôme aujourd'hui. Vous savez qu'on ampute quelqu'un d'un membre et qui continue à avoir mal à ce membre, qui n'existe plus, mais les douleurs sont là. C'est cet ordre-là, certainement, les douleurs qu'il décrit, qui vont justement aussi le rappeler à la vie très régulièrement, parce qu'il va avoir des crises comme ça qui vont le maintenir pendant plusieurs jours complètement prostré dans son lit, absent à lui-même. Mais à chaque fois qu'il en sortira, il aura eu le sentiment d'être entré dans une sorte de phase où il aura vécu aussi des choses qui vont le servir pour créer, quoi. Parce que il y a une notion de douleur un peu créatrice, mystique quasiment, parce qu'il va tomber dans une forme de mysticisme. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il va se rapprocher beaucoup de la religion catholique, qu'il avait beaucoup moqué au début de son existence. Il va finir même par se confesser juste avant sa mort.
Alors justement, vous avez parlé du christianisme et de la douleur. Je voudrais qu'on entre ici, et peut-être aussi dans votre propre expérience, dans un sujet très délicat. C'est la question de savoir si... la douleur est un passage obligé pour ouvrir un certain nombre de canaux, qu'ils soient artistiques, mystiques, peut-être que c'est lié d'ailleurs, spirituel ou créateur. Et est-ce que on pourrait dire, et vous semblez quand même le suggérer dans votre livre, que si c'était à refaire, il aurait peut-être choisi cette vie-là plutôt qu'une autre?
Certainement. Il l'aurait choisi, ça j'en suis sûr, à 100%. Lui-même le dit. Il a cette phrase de dire que sa blessure préexistait avant lui et qu'il est né pour l'incarner. Ça, c'est du pouce qui est craché. Je suis persuadé que oui, il aurait choisi de revivre de la même façon. Et pour élargir un peu le champ, en ce qui le concerne et en ce qui me concerne, il est certain que la douleur a une place importante dans notre processus créateur, tous les deux. Je ne veux pas me comparer à Bousquet, mais sur ce plan-là, c'est ce qui m'a intéressé aussi chez lui, c'est que, en ce qui me concerne nécessairement, cette douleur fait partie du processus créateur, c'est évident, oui.
Oui, non, je pense qu'il ne s'agit pas d'ailleurs, de même qu'il ne faut pas comparer les douleurs, je pense qu'il ne faut pas comparer les écrivains, mais néanmoins, Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous avez reçu le prix Écriture et Spiritualité 2016. C'est que si votre écriture, elle est extrêmement belle parce qu'elle est habitée de cette douleur. Mmh. Et c'est vrai que quand on vous lit, vraiment, là je dois le dire, hein, c'est vraiment une écriture d'une incroyable beauté parce qu'elle est sans cesse résonante de cette douleur transcendée. C'est pour ça que je veux vraiment qu'on explore ça. C'est oui. Comment cette douleur se transforme en beauté, comment elle se transforme en une émotion positive. C'est ça qui me sidère en vous lisant. Vous dites des choses qui sont absolument bouleversantes et ça devient de l'émotion positive. C'est-à-dire qu'on verse des larmes, mais ce sont des larmes qui sont régénérantes. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Donc je rends vraiment hommage à votre écriture et à cette capacité effectivement à transformer les plus grandes douleurs. Alors, est-ce que j'oserais le mot presque en source de joie, Guillaume de Fonclar, vous serez d'accord avec cette opération alchimique?
Bien, ce qui est certain, c'est que la douleur, elle vous ramène sans cesse à vous-même et au plus profond de vous-même, à ce que vous êtes réellement, puisqu'elle vous pose constamment la question. Et j'entends par douleur les douleurs les plus fortes. Hein, elle vous pose sans cesse la question de savoir si ça vaut le coup, voyez-vous, si la vie vaut le coup, puisqu'il y a des douleurs qui sont tellement intenses que vous vous posez la question de savoir s'il faut continuer, quoi. Et quand la réponse est positive, et dans mon cas, et comme dans celle de Bousquet, elle l'est toujours, eh bien, ça vous donne la capacité de la transcender et d'en faire quelque chose d'autre. Je pense que ça vous préserve du mensonge aussi, d'une façon de... Moi, je crois avoir un style et une façon d'écrire où je ne cherche pas la fioriture, si vous voulez. Mmh. Je ne cherche pas... J'essaye, au contraire, d'éliminer tout ce qui est un peu scorie dans ma façon d'écrire, parce que j'ai un peu tendance à, quelquefois, à m'emporter. j'essaye de serrer, quoi. C'est difficile à expliquer, mais de serrer mon texte et de serrer mon écriture pour être dans le plus véritable, le plus vrai. Et je pense que du moment qu'on cherche à atteindre cette vérité de sincérité, cette vérité de vouloir dire au lecteur des choses qui sont vraies et importantes, eh bien on touche. Voilà, je pense que le secret, il est là. On touche et moi, je ne cherche pas à faire pleurer, hein. Je ne cherche pas à pitoyer.
Non, c'est pour ça que j'ai bien précisé, on ne pleure pas des larmes de pitié. On verse des larmes qui sont quelque chose d'une émotion qui touche presque à la joie, c'est ça qui est étrange.
Oui, mais c'est la joie de vivre, en quelque sorte. Quand vous avez quelqu'un qui essaie de vous dire qu'il souffre, mais que... Ce qui est, je ne crois pas être mon cas, mais si on reprend le cas de Bousquet, qui essaie de vous dire qu'il souffre, mais qui dépasse cette souffrance, ce que j'essaie de faire d'une certaine façon, quand même, eh bien, ça vous porte à la joie, quoi, parce que ça vous porte à aimer la vie et à vous dire que la vie est belle.
Et qu'elle vaut la peine d'être vécue.
Et surtout ça, c'est surtout ça. Moi, ça, c'est un pari que j'ai fait, que j'ai fait en conscience, vraiment. Et je suis persuadé qu'elle vaut la peine d'être vécue, malgré tous les obstacles, malgré tous les deuils, malgré toutes les horreurs, malgré le journal télévisé, malgré ce genre de choses. Eh bien, elle vaut la peine d'être vécue parce que elle peut être porteuse de joie et de grands moments, quoi.
Oui, et ça devient chez vous, ce qui devient la métaphore de ça, c'est aussi la marche. Quand vous parlez du fait que par moment vous ne pouvez plus vous tenir debout ou marcher, et par moment vous faites un effort vraiment sur vous pour que cette marche, si douloureuse, si pénible, si parfois impossible soit-elle, deviennent comme le symbole de votre rapport à la vie, en quelque sorte. Est-ce que je me trompe?
Non,
c'est,
pas du
c'est
tout,
vraiment là, une métaphore centrale.
Non, pas
dans,
du
dans
tout,
dans
c'est
votre...
pareil. Vous savez, quand les gestes les plus quotidiens de l'existence deviennent des efforts à la fois consentis et des efforts concentrés, quand faire marcher, c'est mettre un pas devant l'autre de manière consciente et se dire je mets un pas devant l'autre parce que je dois avancer et je dois aller au-delà de la douleur et au-delà de la fatigue et au-delà Cet effort-là, il vous construit en quelque sorte, parce que c'est. Et puis la marche, il y a cette idée d'avancer en dépit des obstacles. C'est un peu ce que je disais. C'est un peu stupide de dire ça, mais il y a toujours un moment lorsqu'on marche, c'est bien connu, où on est. Il y a un point de déséquilibre, et moi, je le sens ça. Je sens que il faut que je rattrape mon équilibre à chaque pas. Cet effort-là, il construit aussi. Il y a une forme de mantra, en quelque sorte, je dirais, oui, oui. De se répéter, attention, fais attention, fais attention. Et en même temps, de laisser courir l'esprit aussi, parce que durant cet effort-là, l'esprit peut continuer aussi à avoir sa propre vie. Mais le fait d'avoir à penser à marcher, c'est un effort qui fait avancer au sens figuré comme au sens propre.
Oui, et d'ailleurs, vous racontez presque au cœur du livre, en fait, votre voyage vers Carcassonne et votre visite de ce petit appartement de Joey Bousquet. Et là, c'est même plus marcher, mais c'est monter les marches, si je vous permettez ce jeu de mots. Mais, et cette montée vers lui, d'ailleurs le livre est écrit à la deuxième personne du pluriel, puisque vous vous adressez à Joey Bousquet, vous dialoguez en quelque sorte avec lui. Donc, vous vous racontez cette montée des marches comme une montée vers précisément cette rencontre avec cet homme qui d'un coup vous infuse la force de monter, précisément. Et monter, c'est aussi écrire, c'est aussi vivre,
d'une certaine façon. Vous savez, quand je marche ou quand je monte un escalier, de toute manière, je vais toujours quelque part. C'est-à-dire que je ne fais jamais l'effort pour rien, quoi. Voilà, je regardais en venant les gens. C'est un exercice que je fais souvent, mais déambuler. Moi, je déambule pas. C'est pas possible. Je marche vers un objectif. Sinon, je reste assis. C'est un plaisir que j'ai dû abandonner, quoi. Le plaisir de pouvoir déambuler, de se dire je vais faire un tour. Moi, je peux pas. Même si je peux marcher, je sais que je marche toujours vers quelque part. Et quand je suis allé à Carcassonne et que j'ai dû monter ces marches vers l'appartement de Joey Bousquet, je montais vers lui. Je montais vers cet appartement qui est resté en l'état quasiment. On a juste mis c'est assez étrange d'ailleurs, parce qu'on voit ce lit qui est inoccupé avec derrière une glace, parce qu'il y a une glace pour que les gens ne puissent pas rentrer et je ne sais, peut-être s'allonger. Voilà, c'est ça. La chambre n'est pas identique à ce qu'elle a été, parce que autrefois il y avait au mur des tableaux de Picasso, de Dubuffet, de Miro, qui étaient ses amis, qui lui envoyaient des toiles. Donc là, j'imagine que la famille a dû vendre un petit peu. Donc,
Ou récupérer, en tout cas.
Donc ce n'est plus au mur. Mais de monter vers cet appartement, ça a été un des grands moments de ma vie, parce que j'avais l'impression que j'allais toucher du doigt quelque chose d'enfin tangible de Joey Bousquet. Jusque-là, j'avais lu beaucoup de ses œuvres, j'avais lu ses correspondances. Et là, j'allais toucher du doigt, si je puis dire, ce qu'était sa vie réelle, puisque c'est assez étonnant de vous dire que vous allez voir une chambre et que cette chambre, c'est l'unique lieu où a résidé une personne pendant 40 ans de son existence, quoi. Là, vous n'avez pas besoin d'imaginer ses voyages ou d'imaginer ses pérégrinations dehors, dans son jardin. Non, là, vous savez que il y a 10 mètres carrés, sa chambre fait 10 mètres carrés, et qu'il a vécu là. Et que vous arrivez là, et que là se tiennent 40 ans de sa vie, de son existence, et qu'il est resté allongé à cet endroit-là pendant 40 ans quasiment. C'est assez extraordinaire. Enfin, pour quelqu'un qui était investi, comme je l'étais à l'époque, de la littérature de Bousquet, puisque j'écrivais ce livre, j'avais l'impression quasiment de toucher au Graal, quoi. Et c'était un moment fort, parce que c'est un moment difficile, monter les marches. Et à la fois, c'était un moment que j'attendais depuis longtemps, que j'avais préparé. J'avais même préparé physiquement le chemin. Je savais le chemin que j'avais à faire pour monter jusqu'à lui. J'ai refusé l'ascenseur parce qu'il y avait un ascenseur. Oui, mais j'ai voulu faire cet effort comme si je venais visiter Bousquet à l'époque. Et cet effort-là m'a conduit jusqu'à cette chambre. où je suis resté devant cette glace donc, qui sépare le visiteur de la chambre, cette vitre. Et vous dire ce que j'ai ressenti, mais quasiment impossible, parce que ça n'avait rien de mystique ou d'une force extraordinaire, mais un sentiment de plénitude, quoi. Quelque chose d'être arrivé à quelque chose. J'étais en face du lit où Bousquet avait passé sa vie. Mais je ne me sentais pas touché par la grâce parce que j'étais devant le lit de Bousquet. Ce qui me semblait extraordinaire, c'était que j'étais à l'endroit où un homme avait passé 40 ans de sa vie. Voilà. C'était de pouvoir dire « je suis à l'endroit où quelqu'un a passé 40 ans de sa vie », ce qui reste extraordinaire.
Et où il a écrit.
Et où il a écrit.
Ces œuvres, oui, qui vous ont à
bien
ce
sûr,
point inspiré et habité pendant tant d'années, et qui continuent, je pense, à vous.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand on parle d'écrivains comme Stendhal ou Zola ou n'importe qui, ou Jordi Houellebecq, que sais-je, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils font dans leur journée. Voyez, vous ne pouvez pas être à un endroit où vous vous dites, ben, ils ont passé là leur journée.
Oui.
Avec Bousquet, c'était le cas. Vous êtes à l'endroit où, pendant 40 ans, il est resté à cet endroit-là et il a produit à cet endroit-là.
Et il a pris son envol aussi, d'une certaine façon, à cet endroit-là. Et c'est pourquoi je vous ai apporté, Guillaume de Fonclar, un poème de Joël Bousquet, bien sûr, mais qui s'intitule « L'hirondelle blanche », ce qui est quand même intéressant pour quelqu'un qui est resté, ouais, effectivement, dans son lit pendant 40 ans. Et voilà, c'est un très beau poème. Il est mystérieux, bien sûr, comme il a sa part d'ombre et d'obscurité, mais c'est peut-être dans cette part d'ombre et d'obscurité que se trouve aussi sa lumière. « Il ne fait pas nuit sur la terre. L'obscurité rôde. Elle erre autour du noir. » Et je sais des ténèbres si absolues que toute forme y promène une lueur et y devient le pressentiment, peut-être, l'aurore d'un regard. Ces ténèbres sont en nous. Une dévorante obscurité nous habite. Les froids du pôle sont plus près de moi que ce puant enfer où je ne pourrais pas me respirer moi-même. Aucune sonde ne mesurera ces épaisseurs. Parce que mon apparence est dans l'espace et mes entrailles dans un autre. Je l'ignore parce que mes yeux, ni ma voix, ni le voir, ni l'entendre, ne sont dans l'un ni l'autre. Il fait jour. Ton regard exilé de ta face ne trouve pas tes yeux en s'entourant de toi, mais un double miroir clos sur un autre espace dont l'astre le plus haut s'est éteint dans ta voix. Sur un corps qui s'argente au croissant des marées, le jour mûrit l'oubli d'un pôle immaculé, et mouille à tes longs cils une étoile expirée de l'arc-en-ciel qu'il draine aux racines des blés. Les jours que leur odeur endort sous tes flancs roses se cueillent dans tes yeux qui s'ouvrent sans te voir, et leur aile de soie enroule à ta nuit close la terre où toute nuit n'est que l'œuvre d'un soir. L'ombre cache un passeur d'absences embaumées, elle perd sur tes mains le jour qui fut tes yeux, et comme au creux d'un lys, sa blancheur consumée abîme au fil des soirs un ciel trop grand pour eux. Il fait noir en moi, mais je ne suis pas cette ténèbre bien qu'assez lourd pour y sombrer un jour. Cette nuit est, on dirait qu'elle a fait mes yeux d'aujourd'hui et me ferme à ce qu'ils voient, couleur bleutée de ce que je ne vois qu'avec ma profondeur, rouge que m'éclaire mon sang, noir que voit mon cœur.
Des discussions du soir, Lélie Anvar.
Guillaume de Fonclar, que vous inspire ce poème?
On voit bien là, il est vraiment représentatif de l'œuvre de Bousquet, c'est-à-dire qu'il a beaucoup travaillé à la façon des surréalistes, l'écriture automatique. Mais on voit bien ce travail qu'il y a sur la musicalité, sur la poésie, sur la façon d'opposer les termes, d'opposer les mots, de mettre musique du style, musique des phrases en relation avec une réalité ou non. Enfin, c'est parfois compréhensible, c'est parfois incompréhensible, il y a parfois un sens, parfois il n'y a pas de sens, Mais le sens caché de tout ça, c'est la poésie, je pense.
Oui, et puis surtout, il me semble qu'il y a cette alternance sans cesse de l'espace et non-espace, l'obscurité et la lumière, et ce passage, on sent quand même une implication aussi du corps. C'est-à-dire que chez Joey Bousquet, le fait d'avoir perdu l'usage du corps, d'une certaine façon, réactive la présence du corps dans l'espace, comme si, si j'ose le mot, l'âme réinvestissait le corps et l'espace d'une autre façon, de manière plus intense, parce que précisément le corps s'absente au monde, donc il faut le refaire venir dans le monde.
C'est tout à fait ça.
Je ne sais pas comment le dire, c'est très compliqué. Mais...
Oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est, le rêve de Bousquet, c'est de se reconstruire en quelque sorte. C'est, de dans le rapport qu'il a avec son corps vécu et son corps non vécu, c'est-à-dire ce corps qui ne lui appartient plus, il y a l'ombre et la lumière, il le vit réellement, cette opposition-là, l'opposition entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière, il l'incarne en quelque sorte. Et son rêve, c'est de se réinventer autre chose. C'est un corps androgyne qui ne soit ni homme ni femme et qui soit un corps peut-être mystique, un corps peut-être... en tout cas, un corps qui soit charnel, enfin qui soit fait de chair. Il n'a pas le fantasme d'avoir un corps qui ne serait que lumière. Ou chez lui, effectivement, l'aspect charnel, l'aspect sensible du corps est très important.
Et c'est à nouveau, comme la question de la douleur, un thème, même s'il ne se dit pas chrétien, qui est quand même profondément lié à l'histoire du christianisme et à la culture chrétienne, qui met quand même l'incarnation au centre. Vous seriez d'accord avec l'idée qu'il y a quelque chose quand même de très chrétien dans ce rapport? Je ne sais pas si vous-même, vous avez aussi un rapport aussi chrétien que Joey Bousquet dans son œuvre, mais on a quand même cette impression, cette présence du corps mystique presque, est liée à quelque chose qui est très important dans le christianisme.
La question de l'incarnation, évidemment, elle est centrale dans le christianisme, comme elle est centrale chez Bousquet.
Et chez vous?
Et chez moi aussi, oui, c'est une question centrale parce que j'ai longtemps nié mon corps en quelque sorte. Moi, jusqu'à ce qu'il se rappelle à moi en quelque sorte, à mon bon souvenir. Moi, quand j'étais enfant, je rêvais d'être un pur esprit, quoi. J'avais cette image que je crois que c'est Platon qui présente l'esprit rattaché par une chaîne au corps. Et pour moi, mon rêve aurait été de briser cette chaîne. Et aujourd'hui, je me rends bien compte que... c'est évident ce que je vais dire, mais qu'on ne peut pas vivre sans son corps, quoi. Il faut pas, on est dans une civilisation qui a trop tendance, je crois, à nier le corps ou à vouloir en faire quelque chose de parfait. Et non, la nature vous donne un corps et cette question de l'incarnation, elle est très importante pour moi parce qu'il faut, si on veut bien vivre, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, il faut vivre avec ce que l'on a, quoi. Et il faut pas essayer de se nier ou de nier son incarnation.
Oui, mais alors vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, il me semble. Vous avez dit notre civilisation a tendance à nier le corps. Oui. On pourrait vous dire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on met le corps quand même en avant, en Occident en tout cas. Ah, c'est vraiment plus que le corps qui compte, il faut tout le temps le corps, il faut le garder jeune.
Et c'est une façon de le nier, ça.
Voilà, c'est ça que je voudrais vous faire dire. C'est que vous nous dites, en fait, c'est une façon de le nier dans sa réalité, dans sa réalité concrète, voire triviale.
Oui, moi j'ai un corps mal fait, mais je ne voudrais pas un autre corps, quoi. J'ai le corps que la nature m'a donné et je ne cherche pas à l'améliorer ou à en faire quelque chose d'autre au travers d'un... J'ai jamais cherché d'ailleurs l'idée du bodybuilding, par exemple, des choses comme ça. Moi, c'est des choses qui m'ont semblé toujours... ça m'a toujours atterré, quoi, de construire son corps... Et c'est ce qui m'intéresse chez Bousquet aussi, c'est que lui, il accepte son corps tel qu'il est, et tel qu'il est devenu, avec ses humeurs, avec sa gestion quotidienne, avec la gestion de ses sphincters, avec la gestion de ses douleurs, avec...
Mais c'est aussi un corps qui va lui donner une forme de jouissance, parce que il n'a pas renoncé à l'amour,
non.
Ni même à l'amour charnel.
Oui, oui.
bien qu'il ait perdu l'usage du bas de son corps, il reste un grand séducteur. Et vraiment dans une jouissance charnelle avec le corps des femmes qu'il a aimé, qu'il a connu.
Mais je pense qu'il y a plus chez lui l'idée de faire jouir que de jouir, sur le plan charnel. Il est grand séducteur, il se sait grand séducteur, il se croit grand séducteur, mais il a une idée de l'amour qui est en définitive très asexuée. Si on va au fond de au fond des choses et au fond de ce qu'il écrit, lui, je le répète, son rêve, c'est le corps androgyne, quoi. Mmh. C'est l'amour pour lui, c'est ça, l'amour parfait, c'est d'arriver à dépasser complètement ces histoires de sexe et d'arriver à une forme de sublimation des corps et des esprits, quoi. Mais il ne trouvera jamais, d'ailleurs, un partenaire à l'aune de cette envie-là, parce que évidemment c'est quelque chose de tellement absolu que c'est tout à fait impossible à réaliser.
Pourtant, il a été aimé, mais oui. Peut-être jamais dans le sens absolu qu'il donnait
non,
à ce terme.
Jamais, mais il l'a toujours compris. Il a toujours compris que c'était impossible. Il n'a jamais fait le reproche à ses partenaires, aux femmes qu'il a aimées, de ne pas avoir été à la hauteur de ses ambitions à lui.
Et ça, c'est aussi peut-être une douleur qu'il a sublimée en littérature. Puisque ce qu'il écrit à ses femmes sont quand même parmi les plus belles pages écrites au XXe siècle.
Oui, c'est magnifique. Oui.
En particulier les lettres à Poisson d'or, mais beaucoup d'autres choses.
Quand
il s'adresse à la femme qu'il aime, il sublime. Au fond, peut-être que l'amour chez lui, comme la traversée de la douleur, ça devient de la littérature, essentiellement et fondamentalement.
C'est ça. C'est tout à fait ça. Ça ne peut être que littérature, en définitive.
Mais littérature dans le sens fort du terme. Alors on va peut-être plutôt dire poésie, même quand c'est de la prose.
Oui, c'est ça, même poésie, oui. Chez lui, c'est poésie.
Et vous diriez que vous essayez la même chose, votre j'ose l'appeler, votre œuvre va dans ce sens-là?
Moi, j'aimerais avoir une œuvre poétique, oui. Ça me semble tellement inaccessible que j'en doute. Mais lorsque j'écris, j'essaye d'avoir ce geste littéraire et ce geste poétique, oui, dans le rythme de mes phrases et dans le style que je mets en œuvre. Mais c'est un exercice difficile.
Eh bien, Guillaume de Fonclar, j'espère que vous allez longtemps encore douter et continuer à nous faire bénéficier de ces doutes, parce que votre prose, pour moi, est vraiment une vraie musique poétique, donc j'espère que vous continuerez à nous bercer longtemps ainsi. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru chez Stock, Joey, ouvrage qui a d'ailleurs obtenu le prix Écriture et Spiritualité 2016. C'était Discussion du soir avec Lily Anvar. Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Jean-Louis Deloncle. Vous pouvez podcaster cette émission pendant un an ou la réécouter quand vous voudrez sur le site de France Culture. La semaine prochaine, je m'entretiendrai avec Marion Muller-Collard et nous parlerons de politique et spiritualité autour de son livre Le complexe d'Élie. En attendant, excellente fin de soirée à tous et à la semaine prochaine.